Très heureux d'être ici après quelques semaines d'absence. Et vraiment, on voulait vous partager quelque chose à propos de notre voyage en Israël, donc 10 jours au mois de juin, du 16 au 26 juin en fait. Et donc, bon, je sais pas, je suis un peu empoté ce matin, bon, ça va aller. Et donc en fait, ce voyage en Israël, en fait, ça correspondait vraiment à un appel du Seigneur pour qu'on aille vraiment sur ce voyage-là. Il y en a plein toute l'année. On avait été sollicité 2-3 fois et on avait dit on va prier. Finalement, la porte s'est ouverte pour celui-là. Alors, bon, voilà, on est allé et en fait, le thème donc, de ce voyage nous a particulièrement intéressé puisque c'était aller sur les endroits où Jésus a guéri des malades, entre autres, mais particulièrement, effectivement, donc axé sur donc le positionnement spirituel et la guérison divine, esprit, âme et corps. Donc évidemment, c'est intéressant, mais on n'y va pas parce qu'on est intéressé, on y va parce qu'on est appelé par le Seigneur. Et Dieu a ouvert les portes pour une histoire de passeport où... voilà, le passeport allait être périmé pendant le voyage, donc c'était pas possible d'y aller. Et Dieu a ouvert puisque on a eu notre passeport tranquille. Voilà. Donc oui, ben voilà. Donc voilà, donc il va y avoir plusieurs temps donc pendant ce partage. D'abord, on va vous parler des lieux qui sont en Galilée. Et j'ai réalisé ça cette fois-ci, hein, que en fait, le ministère de Jésus, ministère de guérison, il s'est passé à 80-90% en Galilée. Alors non seulement effectivement dans les villes juives, mais aussi dans les villes païennes. Et donc on va vous expliquer tout ça. Et après effectivement, il y aura un temps pour Jérusalem. Et s'il nous reste un petit peu de temps, on fera un petit témoignage de ce qu'on a vécu personnellement là-bas, sur cette terre. Donc le premier endroit dont on voulait vous parler, c'est le Mont Carmel. Donc le Mont Carmel, donc en fait c'est sur le Mont Carmel que la confrontation entre le prophète Élie et les prophètes de Baal se déroule. Ça correspond au récit biblique qui se trouve dans 1 Roi 18, 20 à 40. Donc je vous fais un petit résumé. Convoqué par le roi Akab à l'initiative d'Élie, au Mont Carmel, les prophètes de Baal, et Élie se livre en présence de tout Israël à un étonnant concours de sacrifices destiné à démontrer qui de Baal ou de l'Éternel est Dieu. Ben nous on sait, mais bon. Pour ce faire, ils vont chacun à leur tour préparer un taureau pour un holocauste, en disposer les quartiers de viande par-dessus les morceaux de bois déposés sur l'autel, puis demander à leur dieu respectif de mettre le feu au bûcher sacrificiel. Et tandis que les 450 prophètes de Baal, malgré leurs supplications des heures durant et en dépit des plaies qu'ils s'infligent, n'obtiennent pas le moindre soupçon de réaction de la part de Baal, l'Éternel, lui, répond instantanément à la prière d'Élie et envoie le feu du ciel embraser le bûcher et consumer l'offrande et les pierres de l'autel, et la poussière, et l'eau qu'Élie avait fait répandre sur le tout. La preuve en est ainsi magistralement administrée, c'est l'Éternel et lui seul qui est Dieu. Amen. L'inanité, l'inexistence même de Baal est démontrée de manière la plus spectaculaire. Élie triomphe, et il fait aussitôt saisir ses adversaires, les fait amener au torrent de Kizon, et là, en personne, et là c'est terrible, il les égorge sauvagement, un à un. Mes chers amis, il n'y a pas de demi-mesure. Il nous faut nous positionner en faveur de Christ. Soit nous sommes avec lui, soit nous sommes contre lui. Cette confrontation entre le prophète Élie et les prophètes de Baal est une image du combat entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan. Les prophètes de Baal représentent l'idolâtrie, la sorcellerie et le culte aux faux dieux. Les Écritures nous demandent de haïr le mal et de nous sanctifier. Dans ce processus de sanctification, nous avons des choix à faire pour nous positionner en faveur de Christ dans tous les domaines de nos vies. Rien ne doit rester entre les mains de l'ennemi de nos âmes. Nous sommes appelés à la pleine liberté en laissant jour après jour Jésus prendre toute la place dans nos vies. En somme, si Jésus n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas le Seigneur du tout. Rejetons donc dans nos vies toute idolâtrie, toute sorcellerie et tout culte aux faux dieux. Sortons de l'esclavage que Satan nous impose et au contraire, laissons le Saint-Esprit nous éclairer chaque jour afin de vivre la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Amen. Merci pour cet enseignement sur le Mont Carmel. Maintenant, Marilyn va vous parler d'un endroit, un site archéologique qui s'appelle Banias.
Banias est un site archéologique situé à 40 km au nord de la mer de Galilée, sur le mont Hermon à la source de la rivière de Banias. Un des affluents du Jourdain, à l'est de la frontière internationale en Israël et la Syrie dans le Golan. Banias est un lieu marqué par les cultes aux faux dieux. En effet, l'abondance de l'eau si rare en ces contrées, la fraîcheur, la présence majestueuse de la montagne où très tôt désigné Banias comme un lieu prédestiné à l'expression de transcendance, faisant de longue date de celle-ci un lieu important de culte aux faux dieux. Ainsi, dès les temps anciens, on y a offert des sacrifices au dieu Baal, puis, de l'époque helléniste à l'époque byzantine, on y a offert des sacrifices au dieu Pan. L'endroit tire d'ailleurs son nom du dieu Pan, Panium, puis Panéas, puis Banias ou Banias. Banias était donc une ville polythéiste. À l'époque romaine, Panium fut rebaptisé Panéas, mais Philippe Tétraque, fils de Hérode le Grand, en fit sa capitale et la rebaptisa Césarée de Philippe. Or, c'est à Césarée de Philippe que Jésus demanda à ses disciples : Et vous, qui dites-vous que je suis ? Cet événement est relaté dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 19. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples : Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ? Ils répondirent : Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit : Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu diras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Inspiré par le Saint-Esprit, la réponse de Pierre est sans équivoque. Jésus est bien le Messie ou le Christ, le Fils du Dieu vivant. En réponse à cette question de Pierre, venue d'en haut, du Père des Lumières, Jésus pose les fondations de l'Église que bientôt il bâtira. En effet, dans ce lieu sombre où des sacrifices sont régulièrement offerts au faux dieu Pan, Jésus prend position avec autorité et déclare avec force : Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Bien évidemment, nous savons que c'est Jésus qui est la pierre de fondation de l'église, et non pas Pierre. Ce que Jésus nous dit, c'est qu'après sa déclaration de foi, Pierre est prêt à rejoindre l'église sur laquelle aura un impact très fort en devenant le premier évêque de Rome. Bien entendu, Jésus n'a pas fondé l'église comme on fonde une association, une entreprise ou une dynastie. Ainsi, Jésus est le fondement, la pierre de fondation de l'Église. Il est la source qui l'irrigue et la fait vivre. Il est la clé de voûte qui l'attire vers lui. Toutefois, en étant directement sur place, à l'endroit où Jésus a fait ses déclarations, une autre clé de compréhension s'offre à nous. Pour résumer la situation, Jésus et ses disciples sont à Césarée de Philippe, un endroit où l'on rend un culte au faux Dieu depuis très longtemps, au point que le Dieu, avant de s'appeler Césarée de Philippe, et après aussi a le nom du Dieu qu'on y vénère, le Dieu Pan. Il y a là son temple adossé à une falaise rocheuse au pied duquel coule la rivière Banias, une des sources du Jourdain. C'est pour soi quand Jésus dit à Pierre, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » On peut aisément comprendre qu'il a dit en la désignant que c'est au-dessus de cette falaise sur laquelle est adossé le temple dédié à Pan qu'il bâtira son église. Lorsqu'on est à Banias, il est aisé de voir que ce temple où coulait le sang impur se situait juste au-dessus d'une des sources du Jourdain qui s'écoule jusqu'à la mer Morte et irrigue tout Israël. Or, compte tenu de tout ce sang impur, des sacrifices lavés à grande eau s'écoulaient dans la rivière en contrebas, et spirituellement, toute l'impureté et tout le mal pratiqué dans ce temple se répandaient en Israël. Et c'est justement là que Jésus nous dit qu'au-dessus de tout ça, au-dessus de ce rocher, de cette falaise rocheuse, il bâtira son église. Or, à la croix, quand le soldat romain lui percera le côté avec sa lance, il en jaillira du sang et de l'eau. Ce sang et cette eau qui jailliront du côté percé de Jésus viendront laver, purifier cet endroit rempli de sang impur et d'eau qui irriguait tout Israël. C'est une belle image de la restauration d'Israël et des nations.
Après, on voulait vous parler aussi de Tabgha. Alors, Tabgha est un site situé sur la rive nord-ouest de la mer de Galilée. La tradition biblique y localise le miracle de la multiplication des pains, relaté en Marc 6, 30 à 44, et l'apparition du Christ ressuscité à Pierre et à six autres disciples, tel que raconté en Jean 21. Dans ce lieu, nous nous sommes attardés sur le moment où Jésus ressuscité a demandé trois fois à Pierre, « M'aimes-tu ? » Or, nous savons que les deux premières fois, Jésus demande à Pierre s'il l'aime d'un amour agapé, et que Pierre, attristé, ne peut que lui répondre qu'il l'aime d'un amour philéo. La troisième fois, Jésus reformule sa demande en utilisant le terme philéo. En fait, l'amour agapé est un amour inconditionnel qui se donne en sacrifice. C'est l'amour de Dieu. Ainsi, Jésus demande à Pierre s'il l'aime au point de donner sa vie pour lui, ce qui n'est manifestement pas encore le cas. Alors que manque-t-il à Pierre, qui pourtant a tout abandonné 3 ans plus tôt pour suivre Jésus, et qui a eu cette révélation que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, à Césarée de Philippe? Pourquoi la peur l'emporte-t-elle sur la foi? Il faudra attendre la Pentecôte pour comprendre que jusque-là, Pierre avait besoin d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Ainsi, le jour de la Pentecôte, Pierre, qui la nuit où Jésus fut livré l'avait renié 3 fois, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, fait un discours plein d'assurance devant une foule dans laquelle il devait très certainement avoir des pharisiens. Mais cette fois-ci, il n'a plus peur. Il est au contraire rempli de zèle par amour pour le Seigneur. Il se positionne clairement en faveur de Christ. Ça nous rappelle le Mont Carmel quand même, hein, où il faut se positionner clairement en faveur de Christ. Tout en sachant qu'il pourrait avoir de gros problèmes avec les pharisiens, voire être lapidé par eux. Revêtu de puissance d'en haut, Pierre est prêt à donner sa vie par amour pour Jésus. Et nous, sommes-nous prêts à donner nos vies par amour pour Jésus? N'avons-nous pas, nous aussi, à l'image des disciples, besoin d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit afin de manifester avec assurance les œuvres du royaume de Dieu? Nous qui avons accepté Jésus comme notre Sauveur et Seigneur personnel, et qui pour certains d'entre nous avons été baptisés du Saint-Esprit, nous devons prier pour être revêtus de puissance. Ainsi revêtus, nous marcherons avec assurance, remplis de zèle pour le Seigneur, prêts à donner sa vie par amour pour Jésus. Vaste programme, n'est-ce pas? On aimerait bien tous ça, hein, mais donner sa vie pour Jésus. Hein, on lui a donné notre vie, mais voilà, à lui. Mais est-ce qu'on est prêt à aller plus loin jusqu'au sacrifice? Voilà, c'est une question. On est tous, effectivement, et je ne vous demande pas de répondre, hein, c'est juste quand on se pose ces questions, on se dit, Seigneur, en tout cas, moi, personnellement, j'ai encore du chemin à faire, quoi. C'est clair. Tu veux faire ? Avec Marilyn, on voulait aussi vous parler de Bethsaïda. Bethsaïda signifie maison de la pêcherie ou maison de l'approvisionnement. C'est une ancienne ville de Galilée. Elle est située sur la rive nord-est du lac de Tibériade, non loin de l'endroit où le Jourdain s'y jette. À l'époque romaine, le niveau du lac de Tibériade se situe 25 mètres au-dessus du niveau actuel. Et Bethsaïda est donc, à l'époque, au bord du lac. C'était un petit bourg de pêcheurs, non loin du débouché du Jourdain. Donc, une eau poissonneuse. Et apparemment, effectivement, Pierre, Jacques, Jean, ils avaient tous leur bateau ici. Ils descendaient de Capernaum rapidement. Et ils venaient embarquer ici pour aller pêcher. Cette ville, Bethsaïda, se trouve en relation avec la scène de la multiplication des pains, et Jésus y guérit un aveugle. Mais aussi, il prononça contre elle des malédictions qui se réalisèrent puisque la ville a disparu. Matthieu 11, 21. Malheur à toi, Chorazine. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. Et effectivement, à Bethsaïda, il n'y a que des ruines. Il n'y a plus rien, il n'y a que des ruines. Jésus a maudit cette ville comme Capernaum et Chorazine. Ces villes ont vu beaucoup de miracles, mais ne se sont pas convertis à cause de leur incrédulité. Cela nous parle de notre propre incrédulité et de notre propre aveuglement spirituel. Il est à noter que Bethsaïda était une ville fortifiée, cananéenne, que Josué n'a pas pu prendre pendant la conquête du pays de Canaan. Il a fallu attendre le roi David pour que certaines villes fortifiées soient conquises. Mais à l'époque de Jésus, Bethsaïda était restée une ville païenne où on sacrifiait des animaux et particulièrement des taureaux. Cette ville méchante ne s'est pas convertie malgré tous les miracles qu'elle a vus. Ainsi, l'exemple de Bethsaïda nous montre que les miracles ne sont pas la garantie de la conversion des personnes impliquées. Ça ne suffit pas. On aimerait bien voir les miracles. Mais en fait, la conversion d'une personne, c'est la révélation de Jésus-Christ. Une révélation personnelle. Bethsaïda a vu le miracle de la multiplication des pains pour les 5000 hommes. Ce miracle a eu lieu grâce à un jeune garçon qui a apporté le peu qu'il avait. 5 pains et 3 poissons. Et nous, avons-nous assez de foi pour offrir le peu que nous sommes et le peu que nous avons pour glorifier le Seigneur? En fait, notre foi doit se baser sur ce que Jésus nous dit personnellement, sur des paroles réma. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Gabi, hein ? Il faut entendre le Seigneur pour faire ce qu'il nous demande de faire. Les Écritures nous enseignent, mais c'est par le Saint-Esprit que nous avons la révélation. Foi et révélation marchent ensemble, et particulièrement pour la guérison. En effet, malheureusement, des gens sont morts parce qu'ils n'avaient pas reçu de révélation personnelle de leur guérison. Bien qu'ils aient cru aux Écritures et qu'ils se les soient appropriés, ils sont morts. C'est déchirant, mais c'est comme ça. Ils n'avaient pas reçu la révélation personnelle de leur guérison. Et c'est là qu'il faut faire très attention quand on parle de guérison, entre la conviction et la révélation. C'est hyper, 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 hyper important. Après, il y a notre désir aussi. Et quand on prie pour quelqu'un qui est malade, souvent, il y a de la confusion entre notre désir, la conviction liée au fait qu'on s'approprie les Écritures et la révélation de Dieu qui lui dit « Oui, mais non. Oui, je suis d'accord. Dieu guérit. Mais pour cette personne, je vais la reprendre. » C'est un mystère. Ça, c'est des mystères de Dieu. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Après, on voulait vous parler aussi d'un site qui s'appelle Cursi. C'est un site archéologique. Ce site est situé à proximité immédiate du lac de Tibériade, à l'est de celui-ci. C'est l'endroit où Jésus et ses disciples accostèrent après être passés de Capernaum à l'autre rive du lac, dans le pays des Gadaréniens de la Décapole. Les Écritures nous disent dans Marc 5, 1 et 2 que lorsqu'ils arrivèrent dans le pays des Gadaréniens, un homme vint à la rencontre de Jésus. Cet homme sortait des tombeaux et était animé par un esprit impur. Le site de Cursi est donc le lieu où le démoniaque de Gadara a été délivré par Jésus d'une légion de démons. Cette délivrance miraculeuse est relatée dans Marc 5, versets 1 à 20. On observera dans cette histoire que c'est le démoniaque qui vient à Jésus. Ce n'est pas Jésus qui cherche le démoniaque, il vient à Jésus. Cela nous enseigne qu'il ne faut pas chercher les démons et chasser du démon pour chasser du démon. Il faut attendre qu'ils se manifestent. En effet, si nous les cherchons avant le temps, cela risque de nous apporter de gros, gros problèmes. Faire gaffe, hein. Vraiment faire très, très attention à ça. De plus, ici, les démons qui se manifestent à travers le pauvre démoniaque de Gadara sont des esprits territoriaux. En effet, ils supplient Jésus de ne pas les chasser hors du pays. C'est pourquoi Jésus, accédant à leur requête, leur permet de rester sur leur territoire en les chassant dans le troupeau de pourceaux qui se précipita du haut de la falaise dans le lac. C'est des principes d'ordre dans l'univers quelque part. Les esprits territoriaux sont attachés à un territoire. Et Jésus n'a pu qu'accéder à leur requête en fait. Une chose importante à connaître à propos des démons, c'est qu'il y a trois niveaux d'emprise démoniaque sur les personnes. Le premier niveau, c'est la démonisation. L'esprit impur est dans le corps de la personne. Le deuxième niveau, c'est l'obsession. L'esprit impur est dans l'âme de la personne. Le troisième niveau, c'est la possession. L'esprit impur et dans l'esprit de la personne. Ça, c'était le cas du démoniaque de Gadara. Mais, quand on est chrétien, il est impossible d'être possédé, car le Saint-Esprit prend toute la place de notre esprit. Il est impossible qu'il cohabite dans nos esprits avec un démon. Le démon doit partir. En revanche, il est tout à fait possible que des esprits impurs habitent dans notre âme. C'est le début, c'est le, le niveau de l'obsession démoniaque, je m'y perds. Comme indiqué précédemment, il ne faut pas faire d'introspection et aller chercher les démons dans nos vies avant le temps, sous peine d'avoir de gros problèmes. La révélation doit nous venir du Saint-Esprit qui nous éclairera au temps opportun. Mais sommes-nous prêts, nous, à permettre au Seigneur de nous montrer ce qui bloque dans nos vies afin de vivre la pleine liberté que Jésus veut nous donner? Est-ce qu'on est prêt effectivement à être illuminé par le Saint-Esprit et nous montrer qu'il y a des choses qui ne vont pas dans nos vies et des choses, et même voir des démons qui sont en nous et les chasser de nos vies pour aller plus loin avec le Seigneur? Et voilà. Si le Fils vous a affranchi, alors vous serez réellement libre. Est-ce qu'on veut vraiment cette liberté pour rester dans notre confort et retenir encore des choses de notre passé? Pour en revenir au démoniaque de Guédara, après sa délivrance, il est assis, habillé et dans son bon sens. Il demande à Jésus s'il peut le suivre, mais Jésus ne le lui permet pas. Au contraire, il lui demande de retourner vers les siens et de témoigner de tout ce qu'il a fait pour lui. À ce propos, il y a deux niveaux de témoignage. Témoigner du royaume de Dieu et témoigner de ce que Dieu a fait dans nos vies. Ce second niveau de témoignage est très important pour l'évangélisation. C'est ainsi que Jésus envoie, et je dis bien envoie, le démoniaque délivré comme évangéliste parmi les siens. Le démoniaque est donc le tout premier évangéliste. Et il y a vraiment eu un impact sur cette ville, ou jusqu'à récemment dans le passé, alors je ne sais pas, bon, on doit pas, je ne me souviens plus très bien des détails, mais il y a eu jusqu'à 5 églises dans cet endroit. Une petite ville, hein. Donc il y a vraiment eu un impact. Donc après notre périple en Galilée, nous avons terminé à Jérusalem, la ville du grand roi. De notre visite de Jérusalem, nous pourrions vous parler de tant d'endroits, tous très intéressants, tels la cité de David, le mur des Lamentations et sa synagogue, son souterrain, le Saint-Sépulcre, le tombeau de David, la chambre haute, le jardin de la tombe, le mont des Oliviers, le jardin de Gethsémané, j'en passe, il y a tellement de choses. Mais notre voyage étant axé sur la guérison, nous voudrions vous parler d'un endroit particulier où Jésus s'est rendu, mais qui est, et ça c'est une particularité, un territoire français à Jérusalem. C'est la piscine de Bethesda. La piscine de Bethesda, construite au 8e siècle avant Jésus-Christ, au temps du temple de Salomon, se situe dans la vieille ville de Jérusalem, près de la porte des brebis. C'est à la piscine de Bethesda que Jésus a miraculeusement guéri un paralytique. Cet homme était paralysé depuis 38 ans et attendait que l'ange agite l'eau pour se jeter dans la piscine et être guéri. Mais on connaît tous cette histoire, hein. Malheureusement, à chaque fois, le temps qu'il arrive pour se jeter dans la piscine, un autre s'y jetait avant lui et était guéri. Dans sa grâce, Jésus, s'étant rendu sur place, demande au paralytique de se lever et de marcher. Cet homme est alors immédiatement guéri, prenant sa natte et quittant le lieu où il avait passé tant d'années à attendre sa guérison. Cette guérison miraculeuse est décrite dans l'évangile de Jean, chapitre 5, versets 1 à 18. Alors, vous comprendrez bien que tous ces passages, on ne peut pas les lire parce que sinon on prendrait beaucoup de temps. On voulait vraiment passer tous ces messages. Là aussi, comme à Bagnas, Jésus est venu pour asseoir son autorité. En effet, lorsque l'ange agitait l'eau, c'est le moins malade qui se jetait dans l'eau le premier. Ce principe est injuste et ce n'est pas biblique. C'est pourquoi, en guérissant le paralytique, Jésus réalise un acte de justice dans la grâce et la miséricorde pour celui-ci. Ce que nous, on a retenu de cette histoire, c'est non seulement que Jésus vient asseoir son autorité jusque dans le camp de l'ennemi, mais également que nous avons besoin de discernement. En effet, ce n'est pas parce qu'il y a des manifestations que Dieu en est à l'origine. Il est de la plus haute importance de bien regarder à la source des manifestations. Il faut aussi faire très attention lorsqu'on veut prendre l'onction d'une chose ou d'une personne. L'onction, c'est très personnel. C'est la présence de Dieu sur une personne ou qu'on a déposé sur un objet. C'est très lié à la relation de la personne avec le Seigneur. C'est l'huile des vierges sages. Venir chercher l'onction de quelqu'un ou d'une chose peut s'apparenter à de l'occultisme. Les New Age font beaucoup ça. Faisons très très attention. De plus, dans ce domaine, il nous faut également bien discerner la source de l'onction, car il arrive que Dieu n'en soit pas à l'origine. Alors ça, c'est réclamons quand même ce discernement des esprits et ce discernement par rapport aux manifestations et aux onctions. Parce qu'on apprend à la piscine de Bethesda qu'il y avait bien des malades guéris, qu'il y avait bien quelque chose, mais ce n'était pas de Dieu. Depuis très très longtemps, on venait tremper les moutons, les brebis, avant de les emmener en sacrifice, donc au temple. Et donc il y a eu comme une espèce de halo de sainteté sur cet endroit, où les gens se sont dit, oh là là, mais Dieu est là. Et en fait, pas du tout. L'ennemi s'est vraiment immiscé dans cet endroit, et pour moi en tout cas, le fait que ce soit le moins malade qui puisse être guéri, que les autres, ils restaient là pendant des années et des années, pour moi ça me pose question quand même. Donc, vraiment, il faut vraiment faire attention et les ruses du diable sont subtiles. Vraiment, il faut vraiment nous positionner et vraiment regarder à Jésus. Vraiment, il faut écouter sa voix et marcher avec Jésus. Vraiment, comme tu disais au début, Gabi, c'est vraiment faites tout ce qu'il vous dira. On est dans un temps où vraiment ça va encore être de plus en plus difficile et il faut vraiment recadrer les choses pour être donc les yeux dans les yeux avec Jésus. Il n'y a pas d'autre moyen. Enfin, je voulais vous parler un petit peu donc de ce qu'on a vécu tous les deux donc pendant ce voyage. Donc là, c'est un petit témoignage de guérison, en fait. Hein. Donc Dieu nous a fait grâce et il s'est vraiment passé quelque chose sur un voyage où le Seigneur nous a appelé par rapport à la guérison et il s'est passé quelque chose pour la guérison dans nos vies. Donc le premier jour, on est arrivé très, très en avance par rapport au reste du groupe. Et donc on attendait pendant une demi-journée donc à Ben Gourion, donc à l'aéroport à Tel Aviv. Et pendant ce temps, je demandais au Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux nous dire pour ce voyage, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux faire pour ce voyage? Et j'ai obtenu un verset, Josué 6, verset 20. Alors bon, vous savez tous que je sonne du chauffard, et c'est à propos des trompettes à Jéricho. Je dis, Seigneur, bon, ok. Il y a quelque chose. Et donc ce verset, c'est « Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. » Bon, je reste avec ça, je dis « Seigneur, bon, il y a des choses qui vont se passer, il y a un mur qui va tomber, il y a quelque chose, je ne sais pas, on va voir. » Voilà, des fois on reçoit, puis c'est pas ça, donc il faut faire attention, toujours pareil. Donc j'attends de voir. Et donc, quand on s'est retrouvé à Nazareth, très joli d'ailleurs, Nazareth, on s'est retrouvé sur le mont du précipice. Alors, qu'est-ce que c'est le mont du précipice? C'est une petite colline qui est donc près de Nazareth, où donc les gens du village, ne reconnaissant pas que Jésus était le Messie, ont voulu le précipiter, en fait. Donc, ça s'appelle le mont du précipice ou mont du rejet. Et donc, quand on arrive là-haut, là, moi, je me sens super mal. Je ne vais pas bien du tout. Je sais qu'il se passe quelque chose, mais bon, voilà. Donc, je me sens bien que c'est par rapport au rejet. Hein, vous connaissez un petit peu mon témoignage, où moi, effectivement, j'ai été donc rejeté de ma famille, abandonné. Enfin, ça a été compliqué. Et Jésus voulait traiter encore quelque chose par rapport à ça. Et en fait, il voulait traiter cette racine de rejet dans ma vie, profondément. Et donc, effectivement, pendant qu'on était dans ce temps, on était donc enseigné sur ce que c'est Nazareth, qu'est-ce que c'est que le rejeton de David, parce que Nazareth, la racine, c'est Nazer, et Nazer, c'est le rejeton. Donc, c'est quand même très fort ce que fait le Seigneur. Hein. Il a habité dans un endroit dont la racine est le rejeton. Et on nous dit, effectivement, Jésus est le rejeton, donc le rameau, mais dans un autre endroit, il nous a dit, c'est la racine. Et là, je vois à terre une racine toute desséchée, et le Seigneur me dit, ça, c'est ta racine. Parce que tu n'as pas de racine. Waouh, compliqué à gérer ça. Hein. Et là, on prie pour moi, et la personne qui prie pour moi dit que le Seigneur régénère ma racine. Il ne reprend pas l'ancienne, il en fait une nouvelle, mais régénérée, qui me raccorde effectivement donc à mon héritage. Waouh. Une autre personne prophétise aussi en disant, voilà, je te vois comme un bonsaï, un petit arbre, dans un petit pot, et le Seigneur casse le pot pour libérer tes racines. Amen. Une autre personne déclare aussi, il y a eu plusieurs prophéties, j'étais juste étonné que Dieu parle autant, et la personne dit, oui, je te vois comme planté dans cet endroit, sur la terre d'Israël, sur l'olivier franc. Amen, amen. Et une autre personne vient plus tard me dire, oh là là, mais toi je te vois comme quelqu'un qui est derrière un mur, on voit juste le haut de la tête qui dépasse, et tu regardes ce qui se passe, mais tu n'oses pas passer de l'autre côté. Et le Seigneur dit, il faut maintenant que tu passes de l'autre côté, il faut que tu passes de l'autre bord. Et ça fait des mois que le Seigneur me dit, il faut que tu passes de l'autre bord. Amen. Tout ça se recoupe, hein. C'est vraiment... Et donc, comment dire, là, je comprends qu'il faut que je fasse quelque chose, mais quoi, je ne sais pas. Mais Marilyn avait vraiment à cœur de renouveler ses vœux de baptême dans le Jourdain, dans un site baptismal qui s'appelle Yardénite. C'est un site très paisible, très ombragé, enfin c'est vraiment très joli. Et les gens viennent se faire baptiser dans le Jourdain. Et le Seigneur me parle vraiment, il me dit, mais toi aussi, renouvelle tes vœux de baptême. Mais simplement, prends-le comme un acte prophétique. Tu traverses le Jourdain. Alors, tu ne vas pas le traverser à la nage, parce que de toute façon, on ne va pas te permettre de le faire déjà. Mais simplement, tu passes dans les eaux, tu laisses ton ancienne saison et tu passes de l'autre côté. Tu rentres dans ta nouvelle saison. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Tu veux dire quelque chose ? C'est bon? Donc voilà, que dire de plus? Merci Seigneur pour cette guérison et de m'avoir permis de passer de l'autre bord. Amen. En fait, j'avais à cœur, et le Seigneur me montrait ça depuis hier, que Et donc à ce propos, j'aimerais bien que le groupe de louanges puisse venir maintenant, s'il vous plaît. Simplement que on n'est pas, Marilyn et moi, les seuls à avoir des difficultés par rapport au positionnement spirituel et par rapport à la guérison. Souvent, on n'ose pas, on se dit que ouais, ça ira comme ça. On reste un petit peu sur notre vie passée et on survit avec le Seigneur. Et en fait, le Seigneur me demande de faire un appel. Et si vous vous sentez concerné par l'un des points ou autre chose dans vos vies, alors s'il vous plaît, si vous voulez venir devant...